Et nous allons voir ce matin vivre avec nos sentiments et nos émotions. On est des personnes, des êtres émotifs, émotionnels. Dieu nous a fait comme ça parce qu'il nous fait à sa ressemblance. Et lui, il a des émotions, Dieu. Hein? Il aime, il haït. Il a une volonté, le Seigneur. Parce que qui ne ressent pas? Qui n'a pas d'émotions? C'est sûr que c'est une lame à deux tranchants, les émotions. Parce qu'ils sont bons, sinon Dieu n'aurait pas fait l'homme et la femme avec des émotions. Mais c'est pas bon d'une autre façon. Et selon ce qu'on gère, selon le contrôle que nous avons de ces sentiments-là, de ces émotions-là. Nous allons prier pour chercher l'aide du Seigneur. Merci Seigneur, ce matin nous venons devant toi. Nous le faisons avec remerciement de ta miséricorde, de ta grâce sur nous Seigneur. Nous sommes bien conscients que sans toi, on ne serait pas là. Ou en tout cas dans la situation que nous sommes. Malgré les épreuves, malgré différentes choses négatives, il y a sur toutes ces choses négatives, il y a ta grâce et toi avec nous, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te glorifions ce matin, pour ta promesse, que tu serais avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Et même au-delà de la fin, Seigneur, nous serons avec toi. Et merci ce matin pour chaque frère, soeur qui est déjà dans les différents cours. Et Seigneur, glorifie ton nom, donne-nous la édification nécessaire à chacun selon le besoin personnel, Seigneur, pour te glorifier, que ta parole puisse être, Seigneur, gardée dans nos têtes, dans nos cœurs, pour ne pas pécher contre toi, et qu'elle nous aide, Seigneur, au moment de la tentation, dans les moments de détresse, que nous puissions, Seigneur, avoir recours toujours à cette parole, et surtout, Seigneur, avec ta présence dans nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en nous, il est avec nous. Et c'est lui, Seigneur, que nous demandons de ce matin d'appliquer cette parole. Seigneur, aide-nous à garder toujours la saine doctrine, la doctrine de ta parole. Éloigne-nous, Seigneur, de l'erreur doctrinale. Garde notre Église, Seigneur, de l'influence mondaine, Seigneur, de l'influence des gens qui puissent arriver avec de mauvaises doctrines. Merci pour, Seigneur, parce que tu as été toujours avec cette Église, notre Église, et tu l'as gardée jusqu'à date, Seigneur. Aide-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, les sentiments ne sont pas nécessairement mauvais en eux-mêmes. Dieu nous a créés avec l'habilité de ressentir la peine et la joie. Paul condamne le méchant qui a perdu tout sentiment de bon sens. Dans Éphésiens 4, 19, Paul est en train de condamner ceux qui n'ont pas de sentiments, des émotions positives envers les autres. Jésus pouvait ressentir toutes les émotions humaines. Hein? La parole dit que Jésus a été tenté en tout, mais sans péché. Et quand il dit en tout, ça veut dire en tout. En tant que personne, en tant qu'enfant, j'imagine le Seigneur Jésus dans son enfance à être tenté. Mais il n'a jamais succombé au péché. Il faut faire attention, il y a des églises qui ils veulent tellement humaniser le Seigneur Jésus-Christ qui vient mettre Jésus dans une situation que, comme enfant, sûrement il a dû faire des niaiseries comme les autres enfants. Je ne crois pas ça. La parole dit qu'il est sans péché. Et le péché, c'est le seul être humain qui n'a pas le péché original, qu'on dit hein, dans l'église traditionnelle, qu'on peut dire le péché, on est avec le péché qui a été transmis par la tête fédérale de l'humanité, que c'est Adam et Ève, nos ancêtres. Mais Jésus-Christ n'a pas. Vous vous souvenez, il a été né de l'Esprit Saint, il a été engendré par l'Esprit Saint, il est né sans péché. et il n'a jamais fait péché. Moi, je vous dis ça parce que j'étais dans une église dans mes premières années de croyant, où le pasteur, un jour, il a dit que Jésus-Christ faisait ses niaiseries avec ses amis, c'est sûr. Et la plupart du monde était choqué. Et moi, je me souviens que même si je n'étais pas un croyant âgé, j'avais que des mois peut-être d'avoir accepté Jésus. Et même à moi, ça m'avait choqué. Parce que moi, j'ai toujours, même dans l'église traditionnelle, on enseigne, on apprend que Jésus-Christ n'a jamais péché. Et je suis venu voir le pasteur, puis j'ai dit, ça m'a choqué, parce que comment ça se fait que, parce qu'il a presque dit ça, hein, qu'il avait fait, il avait commis ses péchés, quasiment. Alors j'ai dit, parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais le pasteur a voulu me donner une explication que jamais jusqu'à date accepté. Et on a, juste pour vous dire, court la situation, on a quitté cette église parce qu'on n'était pas d'accord. Mais j'étais assis dans ce moment-là, on allait avec mon frère, puis mon frère n'était pas sûrement d'accord non plus. Mais en tout cas, juste pour dire que le Seigneur Jésus a été tenté dans son enfance, dans son adolescence et dans sa vie d'homme adulte, mais il n'a jamais péché. Et le seul sans tâche, et le seul qui est pur, et qui nous montre aussi qu'on est capable de vivre sans péché. Parce que nous avons un avantage par rapport à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, les croyants avaient l'Esprit Saint temporairement, pendant qu'ils ne péchaient pas. Mais nous avons le Saint-Esprit tout le temps avec nous. Même quand on pêche, qu'est-ce qu'on va faire? On va attrister le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne nous lasse pas. Il est toujours là. Mais dans l'Ancien Testament, c'était différent. Quand le croyant péchait, le Saint-Esprit s'éloignait, s'en allait. Il ne restait pas dans la vie des personnes. Et c'est ça que David demande à Dieu quand il a péché. N'enlève pas de moi ton Saint-Esprit. Ne permets pas que je perde la joie d'être avec toi, d'être en communion avec toi. David était très conscient de cette situation-là. Et là, nos sentiments ou émotions doivent être contrôlés par notre intelligence et le tout par le Saint-Esprit. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Si quelqu'un veut m'aider à le lire, 1 Corinthiens 14, 32. Je peux le lire, c'est un tout petit verset. 1 Corinthiens 14, 32. Voilà. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Qu'est-ce que veut dire ce texte-là? Dans son sens plus, un peu plus ample. Ici, il mentionne des prophètes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pas dans le sens technique, mais on prophétise tous quand on parle de la parole de Dieu, des événements qui ne sont pas, comment je pourrais dire, quand on parle la parole de Dieu en général, d'une certaine façon, on prophétise, nous tous, hommes et femmes, quand on parle de la parole de Dieu. Alors, ce texte-là, il nous incombe à nous aussi, il nous met aussi dans le groupe. Alors, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos émotions doivent être contrôlées par notre sagesse et la sagesse vient de Dieu. Alors, le tout doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Parce que pour les émotions mal contrôlées, on rentre dans des gros problèmes. On tombe dans le péché. On va faire des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes. Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus penser que tous les sentiments, toutes les émotions sont péchés. Mais elles peuvent nous amener au péché, s'ils ne sont pas bien contrôlés. Alors, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Notre volonté doit être contrôlée. Et ici, il y a un paragraphe qui dit « Notre volonté doit être contrôlée, la marée d'émotions qui monte et descend en nous ». Notre vie entière doit être sous l'autorité de la parole de Dieu. Et moi, quand on parle comme ça, je pense aussi à la situation que nous allons voir plus tard. Comment les émotions de nous, les croyants, peuvent affecter même la doctrine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou en désaccord? On va voir ça plus tard, mais comment nos émotions peuvent affecter même la doctrine de l'Évangile, la saine doctrine de Dieu. Si on n'a pas des émotions contrôlées selon la volonté de Dieu. Okay? Aucune partie de notre être suffit pour qu'on puisse avoir une vie agréable à Dieu. Même si je dis que je suis une personne très sage, très intelligente.
C'est vrai.
Hein?
Pour toi.
Oui. Je parle pour moi, mon frère. Mais c'est vrai, c'est vrai. Qui pourrait dire, ok, si on parle de le moral, il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement chrétiens et qui ont une morale très élevée?
Oui.
Oui. Je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire du pasteur à El Salvador, qui faisait, moi j'étais pas chrétien, mais vous allez rire, mais j'étais pas chrétien et je suis sorti à évangéliser avec l'église chrétienne. Parce que je suis allé dans la société des jeunes de l'église. Mon frère m'assistait, m'avait invité. Puis il y avait une sortie d'évangélisation. Alors, pour ne pas me laisser seul, les jeunes se sont dit, tu peux venir avec nous. Alors, j'étais un non-croyant et je suis sorti pour évangéliser. C'est drôle. Mais en tout cas, et on sortait dans le quartier, puis le pasteur est allé dans son... Parce qu'il voulait toujours évangéliser quelqu'un qui habitait près de l'église. Le pasteur le voyait sortir souvent. C'était quelqu'un... Il avait bien une belle apparence, le monsieur. Alors le pasteur, ce jour-là, il l'a rencontré. Puis le monsieur, il a répondu, quand le pasteur a parlé l'évangile, le salut en Jésus-Christ, il lui a répondu, j'ai pas besoin de ça. Je suis un homme responsable. Je trompe pas ma femme. Je ne bois pas. Je fais pas la drogue. Je travaille. Je donne une belle vie. Et c'est vrai, il y avait une maison qui c'était quand même dans le quartier. Se voyait bien. Il dit, alors à quoi ça me sert l'évangile? Parce que le monde pense parfois que le moral de l'homme, c'est le tout pour bien vivre.
Et il pense que c'est assez.
Il pense que c'est assez. Et moi, j'ai cru pendant beaucoup de temps, dans ma vie d'ignorant, je croyais que je menais une vie très bonne, jusqu'à ce que Dieu me montre que j'étais vraiment perdu et que j'avais des péchés peut-être pires que d'autres personnes. Les péchés qu'on voit, parfois, ne sont pas nécessairement les pires. Hein. Dans le cœur, on garde des choses qui sont plus... sont pires que l'alcool ou d'autres choses qu'on voit. Alors, c'est... Le monsieur a répondu ça. Mais, est-ce qu'une personne morale devrait avoir un bon contrôle des sentiments? Est-ce que le moral permet avoir un bon contrôle des émotions? Qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois que je parle avec des non-croyants, en général, je dis, la différence entre toi et moi, c'est une seule. Que toi, tu es un pécheur non repenti, et moi, je suis un pécheur repenti. Que je suis conscient de mes fautes, et tu n'es pas peut-être nécessairement conscient de tes fautes. Mais moi, je pêche autant que toi, malheureusement. Parce que, c'est ce que disait Anne, c'est une erreur de vouloir, ou vouloir comme dire... qu'on est meilleur dans la vie, parce que quand, c'est pour ça que les petites fautes que nous faisons, les non-croyants vont les agrandir beaucoup plus, parce que bon, tu dis que t'es meilleur, regarde qu'est-ce que tu fais. Et ça, c'est déjà arrivé à moi. Et pour des petites niaiseries, on m'a accusé, hein, tu vois, t'es chrétien. Et j'ai dit, wow. Et j'étais surpris dans différentes situations, parce que c'est ça qu'il faut même faire la nuance avec, nos amis non chrétiens, de dire, ça veut dire que même si je suis un pécheur pardonné, ça ne me donne pas la permission de pécher. Parce que sinon, c'est ça qu'ils disent. Ah, parce que tu es pardonné, alors tu peux pécher sans problème. Et j'ai déjà entendu des gens dire ça. Hein? Ah, parce que Dieu t'a déjà pardonné tes péchés, comme tu dis, alors maintenant tu peux faire tes affaires. Non? Et j'ai dit non. C'est sûr que non. C'est vrai. Ils ont les yeux comme ça. Hein? par rapport à nous. Hein? Et oui, ils ont raison. Quand on vient, c'est pour ça que c'est très, très dangereux de vouloir se faire, comme disait Anne, le meilleur parce que je suis chrétien. Et une chose est sûre, on devrait être meilleur que les non-chrétiens. Ça, c'est sûr à 100%. Et on doit viser ce but-là. C'est ça que la Bible veut. C'est ça que Dieu nous demande. Quand il dit, ne péchez plus, c'est un ordre. Chercher la sanctification, c'est un ordre. Et ce n'est pas pour nous vanter qu'on est meilleur. C'est pour la gloire de Dieu et pour notre propre édification. Mais c'est pas pour nous vanter devant les autres qu'on est meilleur. Parce que ça, c'est le problème que je vous disais, je crois, la dimanche passé un petit peu. Le peuple d'Israël a mal compris le sens pourquoi Dieu lui avait sauvé, pourquoi Dieu l'avait élu comme le peuple choisi. Ils ont complètement... Et maintenant, même de nos jours, les juifs orthodoxes, les juifs vraiment pratiquants, ils vont même pas toucher une femme parce que ça se peut qu'elle a la même menstruation. Ils vont être impurs. Alors, un juif orthodoxe, jamais il va donner à un non-juif la main, à une femme, parce qu'il risque l'impureté. Mais il ne sait pas la situation de la femme. Alors voyez-vous, parce qu'il se sent mieux, meilleur. Il se sent qu'ils sont meilleurs que les non-juifs. Et c'est la même erreur. Mais parfois, les chrétiens font la même erreur que les juifs. Oui, mais la même demande que pour nous, c'était la même demande que pour les juifs. Soyez saints parce que je suis saint. Mais non, c'est sûr que non. Et toujours, ils se sont trompés. Ils ont mal compris ce que Dieu leur demandait. Alors, ils se sont enorgueillis dans leur cœur. Puis ils ont dit, oh, on est le peuple choisi, on est meilleur que les autres, impurs. Et ça les amenait pire dans la situation devant Dieu. Ça endurcit leur cœur davantage. Alors non, pas du tout. C'est pour ça que c'est bien qu'on touche le thème que jamais nous, les chrétiens, devrons nous considérer meilleurs que les non-chrétiens dans notre conduite quotidienne. On doit, ça c'est la différence, on devrait être mieux parce que nous avons la connaissance de Dieu, on a la connaissance de la parole de Dieu et on a le Saint-Esprit dans nos vies. Alors nous avons une plus grande responsabilité devant Dieu et devant la société même. Parce que n'oubliez pas que Dieu ne nous demande pas des choses juste par rapport à lui, mais Dieu veut que nous soyons aussi lumière dans les ténèbres. Dieu veut que nous soyons différents dans la société. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ utilise la figure du sel pour l'Église? Parce que le sel, pas seulement condimente, mais elle préserve aussi. Alors, c'est ça. Les chrétiens devraient avoir cette double fonction dans la société. Pas seulement pour prêcher l'évangile, mais c'est la deuxième tâche la plus importante que Dieu a donnée à l'Église. Parce que la première, c'est pas prêcher l'évangile. La première, c'est glorifier son nom. Dieu nous a sauvés pour la première chose, pour sa gloire, pour que nous puissions glorifier son nom. Et deuxièmement, pour qu'on prêche l'évangile. Parfois, on pense que non. On pense que la tâche la plus importante pour les chrétiens, c'est de prêcher l'évangile. Ça, c'est la deuxième, la plus importante. La première, la plus importante, c'est glorifier Dieu dans nos vies et dans l'entourage où nous sommes. Alors, c'est très important. Et il ne faut pas perdre de vue ces choses-là. Alors, il y a des pièges de vivre par les sentiments. Les chrétiens, en général, personne ne devrait pas vivre par les sentiments, même les non-chrétiens, pire pour nous les chrétiens. Vivre par les sentiments, c'est d'une façon indirecte, désobéir d'une certaine façon la parole de Dieu. Parce que on a lu déjà le texte de Corinthiens, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Deuxième chose, une mauvaise habitude tenace est développée en suivant le chemin de la facilité, c'est-à-dire en faisant ce que nous voulons, en suivant nos propres sens. Est-ce que c'est plus facile de faire ce que je veux, ce que j'ai ressens, ce que j'aime faire, ou faire le contraire, ou avoir des contrôles ou une limite pour les choses que je veux faire? C'est quoi plus facile? Me laisser aller ou freiner les choses que je veux faire? Parce que la vie chrétienne, c'est va contre courant de la vie du monde, de la vie de la société dans laquelle nous sommes. Juste ce matin, on parlait avec ma femme. Est-ce que vraiment dans nos sociétés latino-américaines, on a cru d'une façon erronée qu'on était meilleur, avec de meilleures choses, une meilleure morale que les sociétés dites développées, Canada, les États-Unis, l'Europe? Et on a tombé dans la même conclusion, non. Tout simplement, ça change le contexte culturel, mais le péché est le même. Sauf là-bas, par exemple, si on parlait un petit peu de la vie libertine, que on pense là-bas que les pays développés vivent, et nous, dans nos pays, c'est la même chose, sauf qu'en cachette. C'est ça la conclusion qu'on sortait avec ma femme. On dit, c'est le même péché dans un contexte culturel différent. Mais le même péché, l'homme n'a pas changé. La culture ne va pas sur les choses qui touchent chaque homme et chaque femme.
La culture n'améliore rien.
Fait des différences, c'est tout. Mais l'homme et la femme, on est soumis dans le péché et perdu sans Christ et sans l'Évangile. C'est pour ça aussi que l'Évangile, la parole de Dieu, est sur toute culture aussi. La culture ne va pas passer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours vive, effective, sur toute culture. Il n'y a pas de culture qui... Oui.
La parole de Dieu est claire, c'est pas marqué que le cœur des Hispanos, le cœur des Européens ou le cœur des Américains, le cœur de l'homme.
De l'homme. Voilà, c'est ça. Alors, c'est parce que parfois, on a des erreurs, on a des concepts qui ne sont pas vraiment réels, ne sont pas d'accord à la réalité. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'est pas être capable d'obéir à Dieu dans un domaine donné, non simplement pas envie d'obéir. Notre nature déchue a très rarement envie d'obéir. Elle préfère faire les choses qui lui plaisent. Et c'est vrai ça. Pas beaucoup de choses à discuter. Notre nature déchue, elle va nous amener toujours à vouloir faire ce que nous voulons, ce que nous aimons faire. Et le péché donne un certain plaisir temporaire, c'est vrai. Mais le résultat est très funeste, est très mauvais. Et c'est selon la parole de Dieu, ça nous amène à la mort. Et pour un chrétien qui reste à pratiquer le péché, ça peut lui amener à la mort physique, pas nécessairement à la mort spirituelle, s'il est vraiment sauvé, mais à la mort physique. Et déjà aussi, on a connu des cas de chrétiens qui n'ont pas voulu réconcilier avec le Seigneur, qui sont persévérés dans le péché, et le Seigneur les a enlevés. Et je crois ça. Même si on prend un petit peu l'exemple de Corinthiens 11, quand il parle que parce que les Corinthiens, les croyants, prenaient la table du Seigneur d'une façon indigne, il y a plusieurs qui dorment. Quand il dit dorment, il ne parle pas de qu'ils sont restés au lit plus longtemps que d'habitude. Il parle qu'ils sont morts à cause de leur péché, de ne pas considérer les choses divines, les choses de Dieu dans le sérieux qu'ils devraient. Alors, je crois que le Seigneur, si un vrai chrétien insiste et persévère dans le péché, même s'il est un vrai chrétien, Dieu peut l'enlever. Parce qu'il est plus pour dénigrer l'Évangile que pour la gloire de Dieu. Et Dieu, n'oubliez pas, Dieu est un Dieu qui a du sel pour lui-même, pour sa parole. Et il va toujours... Oui, moi... Non, il enlève de la vie physique. C'est-à-dire qu'il enlève, il l'amène à lui parce qu'on ne perd pas le salut. Hein. C'est pour ça que je fais la nuance. Un vrai chrétien, si un vrai chrétien persévère et ne veut pas réconcilier avec le Seigneur, ça se peut que le Seigneur l'enlève sa vie physique pour l'amener avec lui, au lieu qu'il reste ici pour dénigrer le nom de Dieu. Ça devrait être comme ça, je pense, mais bah, par exemple, je vais vous dire l'expérience d'un pasteur à El Salvador, qu'il était, avant de devenir chrétien, il était alcoolique. Puis après, le Seigneur lui a sauvé, il a accepté le Seigneur, puis il s'est repenti, même au niveau qu'il est allé pour devenir pasteur. Puis à cause que il y a eu un problème personnel très grave, le pasteur, c'est sûr qu'il a fait des faillances dans sa foi, dans sa dépendance de Dieu, et un bon jour, il a commis le péché de boire, et il est tombé encore dans l'alcoolisme. Et puis les frères venaient lui exhorter, lui reprendre, et il disait, oui, je sais que je suis dans le péché, que je ne devrais pas, mais je ne suis pas capable. Et l'Église priait pour lui, et on insistait, et il acceptait qu'il était dans le péché, mais qu'il n'était pas capable de s'en sortir. C'est-à-dire il n'avait pas la foi assez forte pour que le Seigneur lui fasse sortir. Et un bon jour, il est sorti dans sa voiture, puis il y a eu un accident, il est mort, et on croit. L'Église même était consciente. Il disait qu'il croyait que Dieu lui avait, au lieu qu'il continue dans cette situation-là, parce que le monde, oh, il regardait, c'est un pasteur. Dans ce sens-là que je parle, oui. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Oui, ben, regarde mon frère, il y a différentes situations. Ce verset-là de celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est dans un contexte apologétique. Il parle un petit peu de l'aspect eschatologique. Un petit peu. Parce que si tu vois le contexte du verset, mais tu as raison, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas raison d'une certaine façon. Mais ce verset que tu viens de dire de Matthieu, quand il dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, Jésus-Christ est en train de parler, si tu vois le contexte, des choses, des événements de la fin. Alors il parle, moi, ça on rentrerait dans un aspect eschatologique, on devrait expliquer la situation de le dispensationaliste, le non-dispensationaliste. Moi je crois que ce verset-là, moi je suis dispensationaliste, il faut que je le dise. Dans l'aspect scatologique. Et ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui ne sont pas dispensationalistes sont dans l'erreur. Non, parce que ce sont les choses futures. Mais moi, ma position scatologique, c'est que ce verset-là parle des personnes qui accepteront le Seigneur dans la grande tribulation. Dans la tribulation. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est-à-dire. Non, c'est sûr que non. Et c'est pour ça que je parlais tantôt. Ça se pourrait que si un chrétien persévère dans le péché, étant un vrai chrétien, et j'ai donné l'exemple du pasteur, Dieu pourrait même enlever leur vie physique au lieu de les laisser dénigrer l'évangile plus longtemps. Et Sandra, tu avais levé la main? Oui. Et puis, il y a un verset, je crois qu'il y a un des épîtres de Pierre qui dit, celui qui, dans son épître, je ne me souviens pas le passage, mais celui qui veut rester ferme, qui voit pour sa propre vie quelque chose comme ça, le verset. Vous voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire? On a une responsabilité personnelle devant Dieu. Et ça, c'est que la chose la plus importante, c'est que chacun de nous avons une responsabilité personnelle devant Dieu. Alors, c'est vrai qu'on, comme disait Sandra, on est tenté à rendre un jugement, mais je dois voir pour ma vie d'abord. Avant de voir les autres. Nous veillons et la parole nous demande de veiller pour nous-mêmes en premier. Et après, aider mon frère, si c'est possible d'aider mon frère. Mais moi, je suis responsable de ma vie, en principe. Oui, oui.
En disant ce que Anne a dit, on a parlé d'un Corinthiens 11, il parle vraiment d'un manque de respect vis-à-vis de la table du Seigneur. Et peut-être, du chapitre 11, dit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Puis là, il explique que chacun, donc, s'éprouve. Donc, l'examen de soi-même est important, là. Puis à cause qu'on ne s'examine pas, à cause de cela, certains n'ont pas examiné, ils ont manqué de respect. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et que certains sont morts. Et donc, la responsabilité du jugement envers celui ou celle qui manque de respect envers la table du Seigneur, dans ce cas, c'est le jugement de Dieu, ce n'est pas notre intention de ne pas aller faire ou une sœur qui est malade. Quand j'ai été malade il y a 5 ans, là, à l'hôpital, il y a quelques, dans les mois qui ont suivi, on est venu me voir. Dominique, il y a un péché dans ta vie, c'est sûr. C'est pas quelqu'un de l'Église ici, c'est pas un problème. Mais ça, c'est, attention, ce n'est pas le jugement de nos yeux. Ça, c'est le Dieu fait ce qu'il veut et il rappelle qui il veut quand. Mais nous, notre responsabilité n'est pas par rapport aux autres. Je dis pas qu'on doit pas confronter le péché. Mais c'est à nous de nous examiner, notre morale pour aller avec tout ce qu'on dit tout à l'heure. C'est très important, ça. Attention de ne pas être ceux qui pointent du doigt les pécheurs.
Ouais. Oui, ben le texte de « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, puis tu vois pas la poutre dans ton œil? » Mon frère, puis après, ma soeur voulait dire quelque chose? Tu voulais dire quelque chose, ma soeur? On est tenté à donner, à faire des jugements, OK? Parce que moi, qu'est-ce que je vois, c'est que parfois, comme il y a certains groupes de chrétiens qui croient qu'on perd le salut. Selon la Bible, on ne peut pas perdre le salut. Celui qui a vraiment accepté le Seigneur et que le Saint-Esprit est venu sceller son cœur puis faire sa demeure en lui, il jamais perdra son salut. Dieu ne le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Mais il y en a qui, parfois, peuvent, par différentes raisons, par question d'émotion, lever la main et dire qu'un jour, un bon jour, qu'il accepte le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur est vraiment dans son cœur? Et ça, c'est l'aspect encore qu'on ne peut pas juger, parce que c'est juste Dieu qui connaît le cœur.
Mais on peut toujours prêcher l'Évangile.
Oui, non, c'est sûr.
On doit prêcher l'Évangile, puis laisser le Seigneur.
Oui, c'est ça. Parce que moi, souvenez-vous encore la parole de Jésus-Christ, le blé, puis l'ivraie. À la fin, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? C'est à la fin, et c'est lui qui moissonne, c'est lui qui sépare le blé de l'ivraie. Alors, encore une fois, je crois que ces paroles sont très, très ponctuelles, justement pour les choses qu'on est en train de discuter. Hein? Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le corps de cette personne-là.
Mais on connaît pas son fruit, non?
Oui, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vrais chrétiens qui font des mauvais fruits parfois?
Aussi.
Oui. Non, mais encore une fois, ce qu'on vient de parler, et que Dom a parlé, qui a parlé un peu plus d'un Corinthiens 11. Est-ce que la Bible, dans le passage de 1 Corinthiens 11, parle de vrais chrétiens ou de non-chrétiens? Il parle des vrais chrétiens. Alors, pourquoi ils sont morts? C'est la question. Parce que, qu'est-ce que t'avais dit, mon frère?
C'est pas à nous de juger.
Voilà. Premièrement, c'est pas à nous de juger. Deuxièmement, si le Seigneur l'a enlevé, c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas eu repentance au péché qu'il commettait devant le Seigneur dans l'aspect de discernement du corps du Seigneur quand il célébrait la table du Seigneur. Alors, mais c'est, encore une fois, par exemple, lui, l'exemple que tu donnes, mon frère, tu dois prêcher, on doit prier pour lui, que le Seigneur puisse lui libérer de son problème, et si moi je peux l'aider, je vais l'aider, mais ça reste là. Dieu va traiter avec chaque personne, encore une fois, parce qu'on doit voir plutôt nos vies personnelles devant le Seigneur, et après la vie des autres. Et voir, quand je dis après la vie des autres, ce n'est pas pour juger, mais pour les aider, pour nous entraider, nous exhorter, voilà. C'est la volonté de Dieu, oui.
Moi, je voudrais intervenir là-dessus. D'abord, donnant un exemple, d'abord, j'avais un ami ici avec qui on marchait dans la foi et tout ça. Et arrivé, on n'allait pas dans la même église, par contre. Et il fréquentait une église dans laquelle la paix du salut était enseignée. Au moins, l'église que je fréquente, on ne perd pas le salut. À un moment, il a cessé d'aller, c'est retrouvé des années plus tard. Et puis, il a cessé d'aller à l'église. Donc, quand c'est fait, on prenait de nos nouvelles, il dit non, je ne vais plus à l'église parce que je pense que, comme on n'a pas atteint le but, et puis, mais tu me racontes quoi? Donc, après un suivi d'exhortation, aujourd'hui, les pasteurs. Mm-hmm. Ouais, donc, ça veut dire effectivement que, en tant que chrétien, on va pécher. Mais la différence, on ne va pas pratiquer le péché. Plus de Dieu en nous va nous amener à demander pardon au Seigneur. Ça, c'est de un. Et plus de deux. Souvent, lorsqu'on va, on se fait baptiser, mais le baptiste ne va pas dire, oui, j'ai foi que tu as accepté le Seigneur. Il dit, mais selon la profession, suite ta parole, je te baptise.
Mm-hmm.
Donc, selon ce que tu as déclaré au Seigneur,
c'est ça,
que tu l'as
c'est ça.
Fait, c'est ça. Te baptise. Donc, c'est pour montrer une fois que, d'abord, le salut est personnel.
Ouais.
Mais le fait qu'on dise que le salut, on ne perd pas le salut, on n'est pas en train de dire qu'on est autorisé à pécher, à vivre dans la débauche.
Ouais.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on est en train d'être. Mmh.
C'est ça. Puis je me souviens, j'oublierai jamais la sœur, une sœur africaine qui ne vient plus à l'église. Je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, la sœur. Son nom de famille à Ponga. Je n'oublie pas son nom de famille. Quand elle se fait baptiser, je me souviens, c'est qui? C'est Isaac ou, je ne me souviens pas qui l'avait baptisé, mais il a posé la question. Il dit, es-tu certain, ma sœur, que t'as accepté par la foi le Seigneur? Elle a dit, oui, je suis certaine. C'est pour ça que tu procèdes aux sortes de baptême? Elle dit, oui. Alors elle dit, c'est lui qui l'a baptisé. Je ne me souviens pas c'était qui, si c'était pasteur Frey ou c'était un des anciens. Mais ça fait quelques années déjà. Puis elle a dit, alors on se verra au ciel. Elle a répondu, pour moi, je suis certain, mon frère, mais pour toi, je ne sais pas si je vais te voir au ciel. C'est vrai. Et tout le monde a commencé à rire, mais elle a donné une réponse très sage. Même si ça nous a fait rire. Mais elle dit, mais pour moi, mon frère, je suis certain que je serai là-bas, mais toi, je ne sais pas.
C'est comme on ne connaît pas le cœur. C'est pour ça même quand dans la discipline de l'Église, des frères, on dit qu'on ne peut plus considérer comme... Mais on doit le considérer comme un païen. Ça ne veut pas dire que c'est un païen. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, à cause, pour préserver l'Église, on doit... Donc, le cœur de l'homme, on ne le connaît pas. Dieu le connaît. C'est pour ça que le salut, on doit se baser sur les paroles. C'est vrai que les fruits devraient accompagner le salut. Mais s'il faut qu'on touche et qu'on regarde et qu'on compte les fruits... Chez chaque enfant de Dieu dans l'Église, là, vraiment pas sorti du bois. Et puis, à part de ça, on peut avoir un jugement pernicieux par le fait comme quoi que, ouais, bah, que ça prend au moins 20 fruits, tu sais. Puis là, le gars, il en a juste 18.
Oui. Oui, oui. Ben, on va continuer. Je sais que j'aime ça, la discussion, parce qu'on arrive à une meilleure conclusion. mais brièvement, toi, mon frère, puis toi après.
Parce que selon moi, je vois que mon frère, c'est un exemple pour moi. Je dois faire attention avec la parole de Dieu.
Oui. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça, une bonne conclusion. Oui, mon frère. Tu es d'accord avec?
En recevant sa parole, on est là pour pratiquer.
Oui. Oui. Et une chose très importante, peut-être la chose la plus importante, c'est que nous avons individuellement une responsabilité devant Dieu. Que Dieu me demande à moi, si vous êtes un vrai chrétien, une vraie chrétienne, vous devez avoir la même conviction que moi. Mais Dieu à moi me demande de vivre dans la sainteté, de ne pas faire de jugement, d'être de bons témoignages pour la gloire de Dieu et de prêcher l'évangile. C'est ça que Dieu me demande à moi. Si vous êtes conscient de ça aussi, gloire à Dieu. Et c'est sûr que moi, Dieu nous donne aussi une certaine autorité pour nous exhorter mutuellement. Hein? Et c'est pour l'édification, pas pour te dire, oh regarde, comment tu es méchant, et regarde moi, je suis un... Non, c'est pas pour ça. C'est pour nous entraider. C'est ça le but de Dieu. Et justement, c'est ça que je voulais dire. En ce qui concerne le pardon, Dieu nous commande de nous séparer de toute amertume et de nous pardonner les uns les autres. Que le pardon nous soit demandé ou non. Hein? Parce que on comprend tout le temps le contraire à ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu me demande, regardez, quand mon frère a péché contre moi, qu'est-ce qu'on attend? Que mon frère reconnaissent qu'il a péché contre moi, il vient me demander pardon. La parole de Dieu dit le contraire. S'il a péché contre toi, va et parle à ton frère. C'est l'offensé qui doit aller à l'offenseur, et pas le contraire. Mais nous, on est maître pour faire le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. Hein. Alors, si moi, jamais, je vous fais, je commets une faute contre vous, venez me voir, mes frères. Non, ça ne veut pas dire non plus que moi, si je suis conscient, puis je dois prendre l'initiative. Non, la parole n'est pas contre ça non plus. Mais l'ordre, c'est que si tu es conscient que j'ai commis un péché contre toi, ce que Dieu me demande, c'est que j'aille tout de suite pour te dire, mon frère, tu m'as offensé. Peut-être que tu t'es même pas rendu compte, mais tu m'as offensé dans cette telle chose. Et je veux te dire que moi, je te pardonne. Et ça devrait être la bonne attitude d'un chrétien, selon la parole de Dieu. Colossiens 3:13 dit... Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, c'est un ordre, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tu es un chrétien, applique ça dans ta vie, mon frère et ma soeur, parce que c'est Dieu qui te le demande. On a tendance à croire tout le temps nos émotions, à écouter nos émotions. C'est une tendance naturelle que nous avons. L'assurance de la présence de Dieu ne vient pas des émotions, mais par la foi. On doit être certain qu'on est dans la présence de Dieu, pas parce que je le sens. C'est là que s'applique, quand j'ai parlé, j'ai dit tantôt, est-ce que les émotions peuvent accepter, mal contrôler, les émotions mal contrôlées peuvent affecter même la doctrine dans l'Église de Christ? Oui. Oui. Les émotions mal contrôlées peuvent affecter même la doctrine chrétienne. C'est pour ça que c'est très, très important de laisser que le Saint-Esprit nous contrôle. Hein? Pour donner, trop d'espace aux émotions. Il y a des églises qui ont commencé à pratiquer des choses qui les éloignent de Dieu. Et moi, je le dis clairement parce que je suis conscient que ça ne peut pas être de la part de Dieu. Une église qui pratique les dons de la poule, comme vous l'écoutez. J'ai vu dans un programme de chrétiens, justement, qui condamnait et il nous mettait en garde des mauvaises pratiques dans l'Église. À un moment donné, les mondes qui ont l'Esprit Saint, qui sont remplis de l'Esprit Saint, passent en avant, ils font comme des poules. Et c'est le don de la poule. Est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu? Parce que là, je suis catégorique de dire, ça, ce n'est pas mon Dieu, en tout cas. S'il y a une manifestation comme ça, dans un groupe de dits chrétiens, ça c'est pas mon Dieu. Est-ce que je vois dans la Bible un Dieu? Vous savez qu'il y a des groupes chrétiens qui ont délaissé même la prédication de la parole de Dieu? Parce que la louange, parce que Dieu est dans la louange de son peuple, alors louons le Seigneur. Oui, la louange a sa place. Et nous, ici, dans notre église, on se réjouit dans la louange. On chante des chants et avec joie. Mais la parole, c'est comme je disais le dimanche passé, gloire à Dieu pour ceux qui ont la mémoire de retenir le passage, le chapitre puis le verset. Mais ce n'est pas ça qui change ma vie. Si vous n'êtes pas capable de vous souvenir du chapitre et du verset, mais vous savez le texte de la parole de Dieu, c'est ça qui change votre vie. Ce n'est pas que je sache que tel verset dans 1 Timothée, dans 2 Corinthiens, ça ne change pas. Tant mieux si vous le faites. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ce qui est important, c'est que vous reteniez la parole du Seigneur, le texte. C'est ça qui change ma vie. Ce n'est pas le verset, que je sache le chapitre ou le verset. C'est la parole de Dieu appliquée dans mon cœur. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit prendra et va appliquer dans le moment précis de tentation pour m'éloigner du péché. Alors c'est ça qui est important. C'est la parole de Dieu. Alors les émotions mal contrôlées dans l'Église peuvent aussi affecter la doctrine. Et je pourrais vous dire, quand je vous parle de ces groupes-là, je vous parle de l'Amérique latine. Ici, je ne connais pas une église qui fasse des pratiques pareilles, là, mais je vous parle de... Peut-être qu'il y en a. Parce que n'oublions pas qu'il y a un ennemi qui veut détruire l'Église de, Dieu, de Jésus-Christ. Il veut anéantir l'Église et la vie des chrétiens. Et lui, il va se faufiler pour dévier les chrétiens de la vraie doctrine. C'est sûr que parfois, encore une fois, on n'est pas là pour juger les églises, mais on est là pour nous mettre en garde. Hein? Et quand on parle ici, c'est pour, dans ce but-là, que nous soyons en garde. Et nous ici, ne croyez pas que c'est juste les pasteurs et les anciens qui ont la responsabilité de garder l'église dans la bonne doctrine. Vous et moi, on est responsables aussi pour garder notre église dans la bonne doctrine. Et on doit être en garde. Hein, que personne ne vienne ici. Parce que parfois, les ennemis de l'évangile vont se faufiler parmi les... L'apôtre Paul dit que les loups viendront, ils n'épargneront pas le troupeau. Alors il faut faire attention parce qu'il y en a qui veulent se faufiler entre les chrétiens, puis ils commencent à dire, tu sais, on devrait pratiquer telle chose. Et si là, si moi, ça il me semble pas correct, je dois premièrement lui parler clairement à lui, et sinon aller puis parler au pasteur et puis aux anciens. De dire telle personne dit telle chose, ça me paraît pas correct. Et c'est ma responsabilité devant le Seigneur. Alors, Satan n'a jamais peur de bonnes intentions. Satan n'a pas peur de bonnes intentions des chrétiens. Une intention, c'est quoi? Pour lui. Qu'est-ce que ça fait? Je mets obéissance, émotion ou intention et action. L'obéissance m'amène, si je veux obéir, m'amène à l'action. Si moi, je suis un être, un chrétien purement émotif, je vais avoir de bonnes intentions, mais je vais rester là. Alors Dieu veut que je sois obéissant. Si je suis obéissant, je répète, ça va m'amener à l'action. Quelle action? Dans ma propre vie, dans la vie de l'Église. Dans ma propre vie, parce que moi, je vais justement ne pas me laisser aller par mes émotions. Je vais donner lieu au Saint-Esprit pour que la parole puis ma vie s'améliore devant le Seigneur, devant l'Église, devant la société. Si moi je suis un chrétien qui ne tient pas contrôle des émotions, je vais rester juste en de bonnes intentions. Mais jamais, jamais, ça me fera obéir la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est que je sois obéissant plutôt qu'avoir de bonnes intentions. Jésus-Christ, c'est le bon exemple. Hein? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas eu des émotions? Quand il était au jardin de Gethsemane, est-ce qu'il voulait passer par le sacrifice qu'il allait passer? Non. Est-ce qu'il a fait échec dans son but? Non. Il a dit même, mais c'est pourquoi? C'est comme si Jésus-Christ, dans le même moment de stress, de difficile, émotivement parlant, c'est lui-même, il vient à la conclusion, mais je suis venu pour cette œuvre-là. C'est ça qu'il dit littéralement. Mais épargne-moi, Seigneur, si tu veux, mais c'est pour cette œuvre-là que je suis venu. Alors, oui, oui. Et c'est justement, le contrôle des émotions, c'est ça. Savoir que je veux telle chose, mais que Dieu me demande telle chose. Alors que je dois faire ce que Dieu me demande, plutôt que ce que je veux faire. Ce que je voudrais faire, c'est pas nécessairement la bonne chose. Et dans cette situation-là, on pourrait citer plusieurs, même pas juste Jésus-Christ, des personnages de la Bible qui ont, malgré ses émotions, malgré ses désirs, ils ont choisi d'obéir Dieu contre ses désirs. Je pense à Daniel, hein. Est-ce que vous pensez que la bouffe du roi était mauvaise? Mais non, on lui offrait la poutine, on lui offrait des hamburgers. Puis Daniel voyait le fromage fondu. Il a dit non, Dieu, je vais glorifier mon Dieu. Alors il dit non, je vais manger juste des légumes. Et Dieu honore celui qui cherche sa volonté. Et ça va être toujours pareil. Et je pense aussi à qui d'autre? Ben, José, hein, dans l'aspect sexuel. Pour un homme, on a le concept que c'est toujours, ben, ce serait mieux, meilleur pour le péché de se laisser aller. Mais il a couru au contraire. Et on pourrait citer peut-être d'autres personnages qui ont voulu ne pas succomber aux émotions, mais qui ont choisi d'obéir à Dieu plutôt que succomber au désir qu'ils avaient dans le cœur. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait parler encore, mais le temps est parti encore une fois. Est-ce que, en tout cas, la conclusion, on pourrait dire, les émotions sont mauvaises en telles? Non. Jésus-Christ a montré aussi, a laissé, d'une certaine façon, dans certaines situations, quand le verset le plus court de la Bible, c'est quoi? Jésus pleura. Est-ce que pleurer, c'est pas une émotion? Alors, les émotions, mes frères et sœurs, sont pas tout le temps méchantes, sont pas tout le temps mauvaises. Je peux laisser manifester et me laisser aller dans les émotions quand elles vont pas à l'encontre de la parole de Dieu et vont pas contre ma sainteté, contre mon intégrité spirituelle. Parce que, est-ce que ce n'est pas pour les émotions que je viens au secours de mon frère qui a des problèmes financiers? Est-ce que ce n'est pas parce que je ressens le besoin que ce frère a? Contrôler. Les émotions contrôlées par l'Esprit Saint. C'est la clé de toute chose. Et comme disait Dom, la conscience, la bonne chose serait d'être conscient de mes émotions. Parce que quand je suis conscient des émotions, je suis prêt à les contrôler. Hein? Je suis conscient qu'une telle émotion, si je ne la contrôle pas, va me laisser tomber dans un problème. Alors je dois demander l'aide du Seigneur dans le moment précis pour contrôler cette émotion-là. Et la conclusion, le temps que nous disposons doit servir pour la gloire de Dieu et pour avoir des buts éternels. Notre vie, en premier, c'est que notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Donc, veux-tu prier, mon frère?